Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors justement, comme tous les jours, pour vous chouchouter, pour vous informer, il est à mes côtés dans ce studio, à bonne distance, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au menu du jour, notre grand dossier sera consacré aux méningites. Alors vous me direz, c'est pas un sujet hyper réjouissant, surtout dans le contexte infectieux actuel, mais c'est un sujet très important. Près de la moitié des parents ne connaissent pas bien les symptômes de cette maladie, maladie pour laquelle les choses peuvent aller très vite malheureusement. Donc dans cette émission, sans dramatiser, on va tenter de vous informer, d'autant qu'il existe des vaccins très efficaces pour lutter contre. Alors pour en parler, nous recevrons le docteur Delphine Ménard, elle est médecin généraliste à Colombes, en région parisienne. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Nous parlerons aujourd'hui de la sclérite. Avez-vous déjà entendu parler de cette inflammation au niveau de l'œil qui peut présenter, attention, un risque pour la vision? Nous ferons le point, bien sûr. Et puis, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de fantasmes.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Et pour vous recevoir, pour démarrer ce magazine santé, c'est donc le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la première, c'est la question de Didier.
Bonjour à l'équipe, bonjour Jimmy Mohamed et bonjour Mélanie. J'ai une petite question rapide. J'ai entendu dire récemment qu'on pouvait traiter une appendicite avec des antibiotiques. Bon, ça me paraît un petit peu fou, mais je voulais avoir votre opinion à ce sujet. Est-ce que c'est vrai ou pas? Merci beaucoup.
Jimmy, alors l'appendicite pourrait se soigner avec des antibiotiques, c'est vrai ou faux?
Alors c'est une étude plutôt intéressante, américaine, 25 hôpitaux, 1500 malades qui avaient un diagnostic d'appendicite. Et soit on les a opérés de façon classique avec une appendicectomie, donc on enlève l'appendicite qui est inflammatoire, soit on leur donne des antibiotiques. Eh bien on s'est rendu compte que les antibiotiques c'était pas moins pire que le traitement chirurgical et que ça permettait, dans 7 cas sur 10, d'éviter une appendicectomie. Vous allez me dire, mais c'est super,
bah tonton, ouais.
Mais que deviennent les 3 cas supplémentaires?
Moi, je préfère prendre 3 comprimés qu'aller pas au billet sur le billard, non?
Sauf que ouais, les 3 malades sur 10 finiront par se faire opérer, ceux qui avaient pris les antibiotiques, dans les 90 jours, donc dans les 3 mois. Et surtout, ils font une forme un peu plus sévère, un peu plus compliquée. Donc, vous allez rester un peu plus longtemps à l'hôpital. Et si on s'intéresse au groupe qui a eu des antibiotiques, la moitié du temps, les gens rentrent à la maison, donc ils ne sont pas hospitalisés. Donc, c'est bien, on gagne du temps. Mais l'autre moitié reste à l'hôpital. Et si on regarde le groupe antibiotique, il reste aussi longtemps que le groupe appendicectomie à l'hôpital. Donc finalement, vous allez être hospitalisé quasiment aussi longtemps et peut-être même être opéré avec des complications secondaires. Donc on peut-être le faire, mais pour des malades bien sélectionnés. Et à l'heure actuelle, le traitement, c'est le traitement chirurgical.
J'allais vous dire, donc ça, on ne peut pas dire à ce stade qu'on opère par exemple des gens pour l'appendicite pour rien et qu'on pourrait faire autrement moins invasif. Ce n'est pas le cas. Hein.
Ce n'est pas le cas. Ouais. Le nombre d'appendicectomies a franchement diminué ces dernières années puisqu'on fait de mieux en mieux le diagnostic. Cette étude est confirmée par une autre étude, on appelle ça des méta-analyses, des grosses études d'études, qui confirment exactement les mêmes données. Les malades qui sont traités par antibiotiques, eh bien certains se feront réopérer avec des complications. Donc pour l'instant, c'est pas non plus la panacée.
D'accord. Justement, puisqu'on parle d'appendicite, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même quels sont les symptômes? C'est vrai que tout mot de ventre chez un enfant, par exemple, on se dit est-ce que c'est pas l'appendicite, mon Dieu? C'est quoi les signes précis d'appendicite?
C'est vrai que c'est un diagnostic qui reste compliqué, essentiellement après 6 ans. Il est rare avant 5-6 ans d'avoir une appendicite. C'est le sujet plutôt jeune. C'est des douleurs abdominales chez l'enfant qui sont mal systématisées.
C'est d'un côté ou
normalement,
pas?
Normalement, c'est en bas à droite. Ouais. Ça peut commencer au-dessus de l'estomac avec une douleur qui va migrer, qui va être permanente, avec un enfant qui fera un petit peu de fièvre, 38-38,5, qui peut vomir. Le transit est plutôt normal. Et attention, un enfant qui boite lorsqu'il marche, c'est-à-dire qu'il est plié en deux, eh bien, c'est un signe d'appendicite. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation au niveau du psoas, le muscle, qui est au contact des viscères. Et donc là, ça doit inquiéter les parents. De toute façon, les parents, lorsqu'un enfant a mal au ventre, vont assez facilement chez le médecin, surtout si ça ne passe pas avec du Doliprane ou du Spasfon.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Pascal qui nous l'a laissé. On l'écoute, Pascal.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. Je pense avoir le Covid-19. Faut-il faire un test direct ou faut-il que j'aille voir mon médecin traitant? Merci.
Très important comme sujet, Covid. Hein, je me sens également concernée, j'en sors à peine, vous le savez très bien. Jimmy, donc il dit « je pense avoir le Covid ». C'est quoi la bonne conduite à tenir? Parce qu'il n'a pas l'air non plus très très malade. Est-ce qu'il faut forcément s'isoler, aller se faire tester?
Je pense
ça
que
se passe
le médecin de premier recours reste le médecin généraliste, le médecin de première ligne. Il a été beaucoup oublié lors de la première vague. Dans la deuxième, c'est un peu la même chose, puisque désormais, on peut aller au laboratoire se faire tester à la volée. Moi, je pense qu'il est préférable d'aller voir le médecin, puisque vous pouvez avoir autre chose que le Covid. Si jamais c'est ça, il va évaluer avec vous si vous êtes à risque risque de complications. Il vous donne un arrêt de travail pour vous mettre à l'isolement et puis surtout une ordonnance qui est censée vous donner prioritaire dans les laboratoires, même si en pratique, c'est pas vraiment le cas.
Ouais. Et justement, si on pense avoir le Covid, parce qu'on a par exemple, on n'est qu'à contact, on a croisé quelqu'un qui l'a, mais qu'on n'est pas malade, est-ce qu'il faut aller voir le médecin là pour le coup ?
Alors si vous êtes qu'à contact, mettez-vous à l'isolement.
Ça,
ne retournez pas au travail. Et si vous devez absolument retourner travailler, même si ce n'est pas recommandé, il faut vous masquer et ne jamais l'enlever. Et puis, il faut dans ces cas-là vous faire tester. Vous avez normalement un SMS de l'assurance maladie qui lui aussi vous donne prioritaire, mais même si en réalité, ce n'est pas le cas non plus, pour vous faire tester. Et là, si vous êtes un simple cas contact, bah vous n'êtes pas obligé d'aller voir votre médecin traitant.
Comment ça se passe, en tout cas, de votre expérience, Jimmy, bien sûr, dans les labos aujourd'hui, on dirait que ça va un petit peu mieux. Enfin, moi, j'ai l'impression autour de moi que les gens qui se font tester ont des résultats dans des délais un peu plus acceptables.
C'est mieux dans la médiocrité, il faut
le
reconnaître. Donc, il y a une petite amélioration, mais elle est vraiment très modérée.
Il y a encore des gens qui attendent trop longtemps.
Exactement, devant les laboratoires, les délais, les résultats, ça va être 2-3 jours, ça va être un peu mieux. L'idéal serait quand même de les avoir dans la journée. L'absentéisme et l'arrêt de maladie est très important derrière. Donc, on s'améliore et petit à petit, on perd la trace du virus. La stratégie de tester, isoler et tout le tralala, ça marche de moins en moins.
Ouais.
On a l'impression qu'on est sur une étape supplémentaire, celle de la diffusion du virus, raison pour laquelle il va falloir tous rester un peu chez soi.
Très bien, merci Jimmy. Alors si vous aussi, comme Pascal qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans son rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Delphine Ménard, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors vous êtes médecin généraliste à Colombes, en région parisienne, et on va s'intéresser avec vous à la méningite. Alors je dis la méningite, mais je devrais dire les méningites, hein, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y en a pas qu'une. Hein.
Oui, déjà pour rappeler, la méningite c'est une maladie qui est grave, imprévisible, d'une évolution qui est très rapide et parfois fulgurante. Elle est peu fréquente, mais il ne faut pas dire qu'elle est rare, parce qu'on a quand même des chiffres qui montrent que c'est quand même pas si rare que ça. En moyenne, 8000 méningites par an en France, 1300 méningites bactériennes par an en France, 400 à méningocoque, on va parler pas mal du méningocoque, et puis entre 50 et 60 décès par an en France. Donc c'est pas si banal que ça.
Concrètement, les infections qui donnent des méningites, alors elles provoquent donc, le mot de méningite, il vient de méninges. Est-ce que vous nous rappelez finalement ce que c'est, ce que sont les méninges ?
Une méninge, c'est une membrane. C'est une membrane qui entoure, qui enveloppe le système nerveux central. Le système nerveux central est constitué du cerveau et de la moelle épinière. Et donc, une infection des méninges, c'est une infection de cette membrane et du liquide céphalo-rachidien. Et il peut être dû à un virus, une bactérie, un parasite ou un champignon.
Paradoxalement, c'est quelque chose qui inquiète souvent les parents. Ils sont persuadés que leur enfant a une méningite dès qu'il a mal à la tête, mais ils connaissent mal les symptômes d'une méningite. Et parfois, ça peut conduire à un retard diagnostique parce qu'on va l'apprendre à tort pour une autre infection.
Oui. Le problème, c'est que l'évolution, ce que je disais, c'est que c'est fulgurant, foudroyant, et que de temps en temps, un enfant qui n'a rien, il peut se retrouver, ou une personne âgée ou adulte, peut se retrouver en 24 heures décédé. Donc ça va très très vite, et le problème, c'est qu'au départ, les symptômes sont d'une grande banalité, avec des signes de virose, comme on peut avoir actuellement les signes de virose, le nez
fatigué,
qui coule, le mal de gorge, c'est ça, un peu irritable. Malgré tout, on retrouve quand même très souvent une fièvre élevée et mal tolérée.
C'est combien au moins de fièvre ?
Ça dépend. Enfin, les gens ne chauffent pas toujours de la même façon. C'est ce qu'on dit souvent. Moi, je dis souvent aux mamans de tout petits bébés, prenez la température de votre enfant pour connaître. C'est peut-être que cet enfant-là, de base, il est à 36. Peut-être que de base, il est à 37,2.
Oui, donc
quand il se retrouve à 38,5, ce n'est pas la même chose.
Bien sûr.
Donc déjà, voilà. Mais surtout, comment elle est tolérée, cette fièvre ? Quel est l'état général de cette personne ?
Et souvent, les parents me disent aussi, vous devez le constater, j'ai regardé la nuque n'est pas raide ou elle est raide.
Moi, c'est le seul truc que j'avais en tête au début, m'intéresser un peu à la santé.
Mais que les parents ne sont pas en mesure de savoir si une nuque est raide. C'est un examen médical et donc ce n'est pas le signe qui doit vous alarmer, vous inquiéter. On est d'accord que la raideur méningée, la raideur de la nuque, c'est plutôt un signe qui peut aider, mais il n'y a pas que ça.
Oui, alors s'il est là, c'est vrai que ça va plutôt avec un problème cérébral. Après, si cette raideur de nuque, qui est donc la difficulté à fléchir la tête en avant ou le refus de la fléchir en avant, s'il n'est pas là, c'est pas forcément une absence de méningite. Notamment chez le petit, on a cette soupape qui est la fontanelle, qui peut du coup effectivement lui permettre d'avoir cette soupape au niveau de la tête et donc de ne pas présenter de raideur de nuque.
Ah,
alors,
tout petit,
qui a encore sa fontanelle, donc jusque 8, 9, 10, 11 mois chez certains enfants, il n'y a pas de raideur de nuque parce que la fontanelle est bombée. En fait, si on la palpe, on va la retrouver bombée. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a l'habitude de palper. Et souvent, les parents ont peur de la palper. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller vérifier. Mais effectivement, on ne retrouvera pas de raideur de nuque. Et puis, il n'y a pas de raideur de nuque systématiquement.
Vous le constatez, vous, alors en consultation, je ne sais pas, mais avec les parents avec qui vous discutez, ils connaissent mal les symptômes de la méningite ? Ça,
oui,
vous en êtes rendu compte ?
Ce qu'on voit, il y a eu une étude il y a 2-3 ans qui a été faite, où on voyait que seulement 8% des personnes associaient par exemple le purpura avec le
purpura, donc ce sont des petites
taches
sur la peau.
Donc on va peut-être en parler pour détailler un peu, ça me paraît important. Mais il y avait 8% des parents, des adultes qui associaient la méningite avec le purpura. On avait aussi l'impression que...
Alors expliquez-nous ce qu'est
le purpura, c'est des petites taches violacées, pourpres, qui sont sur la peau. Elles peuvent être partout, donc il faut enlever les chaussettes, enlever la couche, on peut les retrouver partout. C'est des petites taches qui signent une atteinte avancée de la maladie. Et qui,
c'est pas des boutons, hein, vraiment,
c'est
des
taches.
Des boutons, ouais.
C'est des taches,
relief,
c'est quelque chose de très extensif, qui va très vite. En général, il y a des parents qui disent, mais il y a une heure, il n'y avait rien, et là, il y en a partout. C'est extensif en taille de la tache et en nombre de taches. Une façon aussi de bien vérifier qu'un purpura, c'est différent d'une petite roséole ou d'autre chose, c'est que c'est une tache qui ne s'efface pas à la vitropression. Donc,
on n'appuie dessus,
on ne voit pas. Et la tâche se perdure. Et l'autre façon de le voir de temps en temps, ce que je dis aux parents, c'est mettez un verre transparent à fond clair, vous l'appuyez sur la tâche et quand vous regardez au fond du verre, la tâche perdure.
C'est un bon conseil, ça, effectivement.
Un autre signe, c'est donc, on a parlé de la température, mais chez un enfant qui n'est pas comme d'habitude, un enfant qui est cassé, souvent les parents sont paniqués dès qu'ils ont 39-40. On peut avoir 40 avec une petite rhinopharyngite. Qu'est-ce qui doit alarmer quand un enfant a de la fièvre dans l'ambiance un peu de méningite ?
Moi, j'aime bien dire pas comme d'habitude. C'est vrai que c'est pas très médical et c'est pas un symptôme. Et pour autant, je trouve que c'est vraiment important de le dire dès les tout petits. Madame, faites-vous confiance, votre bébé a 8 jours, mais si vous ne le trouvez pas...
Une maman, un papa, il sait quand il n'est pas comme d'habitude. Ouais.
Si vous ne le trouvez pas comme d'habitude, faites-vous confiance, il n'est pas comme d'habitude. Et pas comme d'habitude, c'est irritable, qui gêne, qui est prostré, qui ne veut pas manger alors que d'habitude il mange bien. Et ça, on peut le retrouver même chez un ado. Un ado, il est globalement irritable, mais enfin, quand il a une méningite, il est très irritable, il est prostré, il n'est pas confortable.
D'autant plus que ces signes de mauvaise tolérance, ça peut être une méningite, mais une autre infection bactérienne sévère, donc il y a la méningite, mais il y en a d'autres. Donc si jamais votre enfant est comme ça, allez voir le médecin. Souvent, voir le médecin pour le nez qui coule, ce n'est pas toujours justifié, mais peu importe. Mais là, c'est le moment de consulter, parce que même si ce n'est pas une méningite, ils ont le droit de faire une pneumonie, une pyélonéphrite, toute infection bactérienne qui nécessite un avis médical.
Il y a des tranches d'âge dans lesquelles c'est plus fréquent, les méningites, lesquelles et pourquoi ?
Alors, sur les infections à méningocoque, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les moins de 1 an sont 10 fois plus touchés que le reste de la population. Donc, ils sont vraiment très, 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 très touchés. Après, il y a les grands enfants, 3-5 ans, les adolescents et puis les personnes âgées. Ce qu'on voit, c'est que les extrêmes de vie sont toujours plus vulnérables. Et puis après, il y a tous ces systèmes de clusters, parce que maintenant, on parle de clusters. Donc,
tout le monde sait ce que c'est maintenant.
Ça y est, maintenant, c'est un terme bien utilisé. Tout le monde se regroupe.
Docteur Ménard, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, Delphine Ménard. Docteur Delphine Ménard, je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Colombes. Et avec vous cet après-midi, on s'intéresse aux méningites. Alors on vient de voir que malheureusement les symptômes sont très mal connus des Français, des adultes, encore aujourd'hui en 2020, et peuvent entraîner donc un retard dans la prise en charge des patients atteints. Justement, une fois qu'il y a eu l'apparition de ces premiers symptômes dont on a parlé, les premiers signes, donc là, les raideurs, la fatigue, un enfant par exemple, je parle d'un enfant mais ça peut arriver un peu plus grand, mais qui n'est pas comme d'habitude, on consulte qui ? Le médecin généraliste habituel ou est-ce qu'on file aux urgences ? C'est quoi la conduite à tenir pour les parents finalement ?
L'idée, c'est de consulter rapidement.
Alors, un avis médical.
Oui, un avis médical. Si les urgences sont à une demi-heure, faut aller voir son médecin. Si son médecin a 2 heures d'attente dans la salle d'attente, il faut pas aller dans la salle d'attente. Ouais. Enfin, en tout cas, il faut se manifester tout de suite.
Dans quel délai l'idéal la prise en charge ?
Le plus vite possible. Ouais. Ça va très très vite. On l'a dit. Le purpura fulminans, il va très très vite. On dit qu'en 24 heures, ça peut durer plus longtemps, mais enfin,
en 24 heures, on peut décéder.
Et donc, il faut vraiment aller très très vite. L'idée, c'est de mettre en route très très vite les antibiotiques. Alors, si on peut prélever avant la prise de sang, faire la ponction lombaire pour récupérer le liquide céphalo-rachidien pour aller chercher le type de bactérie ou de virus et chercher l'agent causal de la méningite, on va le faire. Si on
justement,
n'a pas le temps...
Ouais. Revenons sur ce détail-là, il y a les bactériennes et les virales de méningite.
Oui.
Quelle part d'ailleurs ? Il y a plus de virales, plus de bactériennes ?
75% de virales, 20-25% de bactériennes. Dans les virales, il y a la grande majorité sont des entérovirus qui ne sont pas très graves. Il y a quand quand même des virus qui sont l'herpès, par exemple, la rougeole, la varicelle, qui sont des méningites virales qui peuvent être compliquées.
Et justement, comment est-ce qu'on attrape ces différentes méningites? Est-ce que le mode de contamination est le même pour une méningite bactérienne qu'une méningite virale?
Bah, la contamination, elle est ce qu'on a toujours dit. Alors peut-être qu'on va modifier maintenant, mais enfin, ce qu'on a toujours dit, c'est moins d'un mètre, plus d'une heure. Donc moins d'un mètre, plus d'une heure avec quelqu'un non masqué, puisque c'est plutôt effectivement comme nos virus actuels, des méningites avec gouttelettes d'air et de gouttelettes de respiration ou d'éternuement. Mais c'est, voilà, il faut quand même un contact rapproché, donc ça ne saute pas comme ça dans la rue. C'est pas, il ne faut pas se méfier de toutes les personnes.
Donc on peut attraper ça comme une rhino quelconque, une angine.
Exactement, exactement. C'est aussi et virus comme bactéries.
Et donc on dit que c'est quelque chose qui est très contagieux, par exemple dans une famille, donc dans une fratrie, admettons un enfant qui a ça, est-ce que du coup les autres frères et sœurs doivent être testés? Il y a un risque qu'ils l'attrapent aussi?
Alors on testera pas, parce qu'en fait ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a 10 à 20% de porteurs sains de méningo par exemple. Donc il y a des personnes qui sont porteurs et qui ne font pas de symptômes et qui ne feront pas de symptômes. Pour autant, il faut faire une sorte de nettoyage dans la famille avec une antibiothérapie préventive.
Quand
on a vu et quand on a détecté une méningite à bactéries chez un enfant par exemple, ou chez un membre d'une famille, toutes les personnes qui ont été en contact plus d'une heure avec cette personne sont traitées.
Vous l'avez un petit peu évoqué, comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Comment est-ce qu'on confirme une suspicion de méningite?
Alors, la ponction lombaire va nous révéler, on fait une ponction lombaire.
Ça se fait à l'hôpital,
piqûre,
hein,
voilà, c'est
plutôt,
on fait uniquement à l'hôpital. C'est un prélèvement qu'on fait dans le bas du dos où on va aller chercher du liquide céphalorachidien et on va l'analyser. De temps en temps, on ne retrouve pas. Et donc, dans la prise de sang, on va retrouver un peu a posteriori la bactérie va aussi se retrouver dans le sang et donc on aura une septicémie en même temps que la méningite. Et puis maintenant, ce qu'on fait quand il y a un purpura, c'est qu'on peut aussi faire des biopsies cutanées et on retrouve, même si l'antibiotique a été mis en place avant par le médecin. Donc, de temps en temps, le médecin a un peu peur de mettre en place une antibiothérapie en ville, parce qu'il a peur de décapiter, comme on dit, et de masquer ce germe. Avec la biopsie cutanée, on pourra retrouver le germe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout le monde sous antibiotiques facilement, mais voilà.
Justement, vous disiez, là, vous parliez d'antibiotiques. J'imagine que c'est dans le cas où la méningite est bactérienne. Si elle est virale, on la traite comment ?
De toute façon, on a un peu de mal à faire le tri, et encore plus dans le vif du sujet, de faire le tri viral-bactérien. Donc en général, on commence par
l'antibiotique
et on balance des choses plutôt à large spectre, à grandes échelles pour couvrir au maximum. Et puis quand on récupère les résultats, on voit si c'est viral et qu'il n'y a pas besoin d'antibiotiques, parce qu'effectivement les antibiotiques ne fonctionnent pas. Sur les entérovirus, il n'y a pas besoin d'antibiotiques.
En quelques jours, ça va rentrer dans l'ordre, c'est ça ?
Si par contre, si c'est un herpès, il faudra mettre des traitements ciblés. Et puis si c'est une bactérie, on maintiendra l'antibiotique, mais peut-être qu'on ciblera davantage l'antibiotique en fonction de la bactérie.
Donc on a compris, traitement antibiotique précoce, donc moindre doute. Et si jamais c'était une méningite bactérienne, est-ce qu'il y a des séquelles pour l'enfant ou le patient dans le futur ?
Oui, alors malheureusement, malgré le traitement, on retrouve à peu près 20 à 30% de séquelles.
De quel ordre ?
Chez tous les survivants, 20 à 30% parmi les survivants. Donc un survivant sur 5 aura des séquelles. Dans les séquelles, il y a des séquelles visibles immédiatement, donc des séquelles orthopédiques, par exemple des amputations de parties de membres ou de membres.
Oui, parce qu'il y a une infection un peu...
Exactement, et du coup ce purpura, c'est une sorte de nécrose et qui peut donc nécroser les extrémités. Et donc on peut retrouver effectivement des amputations, des cicatrices cutanées, mais aussi des surdités.
Il y a un grand sportif, je crois, qui a perdu les membres
comme ça.
Exactement,
tout à fait, qui est très courageux, mais qui effectivement a été quadri-amputé. Il peut y avoir des surdités, des cécités, il peut aussi y avoir des troubles des apprentissages, des troubles psychologiques, des dépressions.
Oui.
On peut retrouver des troubles cognitifs. À distance, on peut aussi retrouver des choses. Et puis, il y a tout le stress post-traumatique et pour le patient et pour tout l'entourage de cette mort imminente. Donc c'est au moins 30% de séquelles, si ce n'est plus.
Du sérieux, effectivement, docteur Ménard. On va faire une courte pause et on continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, docteur Delphine Ménard. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Colombes et que l'on fait donc un point avec vous cet après-midi sur les méningites. Alors la bonne nouvelle, malgré tout, parce que c'est un sujet un peu lourd peut-être, les méningites, mais très important parce que très mal connu et on peut agir notamment grâce à la vaccination. On peut prévenir. Il existe des vaccins contre certaines méningites. D'abord la méningite C peut-être, puisque celle-ci, elle est dans le calendrier vaccinal des enfants. Elle est obligatoire pour tous ceux qui sont née après de janvier 2018. Elle se fait à quel âge cette vaccination ?
Alors, le vaccin anti-méningocoque C, il se fait à 5 mois et à 12 mois, deux injections qui sont obligatoires. Il y en a d'autres qui sont antibactériennes méningites, qui sont obligatoires pour les enfants nés après 1er janvier 2018. C'est le pneumocoque et l'hémophilus. C'est deux bactéries qu'on n'entend plus beaucoup et qu'on voit beaucoup moins, mais qui sont...
On les voit beaucoup moins sûrement aussi grâce à la vaccination.
Le méningocoque C, on en voit beaucoup moins depuis la vaccination.
Donc je ne vous demande pas, j'imagine que si c'est obligatoire, les enfants aujourd'hui en France sont bien vaccinés quand même, la couverture vaccinale est assez bonne.
Oui, normalement pour entrer à l'école, il faut avoir fait ces vaccins obligatoires. Alors on commence juste à avoir des enfants qui rentrent, mais pour la collectivité par exemple, pour la crèche, c'est obligatoire. Après, on peut retrouver des familles qui ne sont pas vaccinées, mais ça reste
plus rare.
Ouais, et puis c'est aux médecins d'inciter.
Il n'y a pas trop d'opposition à cette vaccination. Je n'ai pas l'impression que c'est celui qui pose le plus de problèmes. Quand on dit aux parents, c'est le vaccin contre la méningite.
Bon, ils disent oui, allez-y, docteur.
J'ai l'impression qu'il y a une adhésion assez naturelle.
Oui, puis il n'y a pas eu de polémique sur ce vaccin. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que dès qu'il y a une polémique et qui enfle pour pas grand-chose de temps en temps, ça casse un peu. Là, il n'y a pas eu de polémique. Donc
celui-là, il est bien accepté dans la population. Jimmy ?
Il existe aussi un autre vaccin qui n'est pas obligatoire contre un autre type de méningite, le vaccin contre la méningite de type B. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors ce méningocoque B, c'est quand même celui qui est beaucoup plus représenté parmi les méningites à méningocoque en France. Donc c'est celui qui fait des méningites les plus graves et qui est le plus fréquent. Ceci étant, c'est un vaccin qui est beaucoup plus récent, c'est un vaccin qui est un petit peu compliqué et qui a eu on a eu un peu de mal à le fabriquer. Il n'existe que depuis quelques années et donc il n'est pas encore passé dans le calendrier vaccinal des obligations
vaccinales.
Vous dire,
c'est bizarre, vous dites que c'est plus grave.
Ouais,
il y en a plus,
mais il est plus récent. Ouais. Donc la loi a été déjà passée. Pour faire passer une loi, c'est compliqué. Mm-hmm. Et pour mettre un vaccin supplémentaire dans les vaccins obligatoires, c'est compliqué. Ça viendra peut-être.
Est-ce que dans d'autres pays, c'est déjà diffusé plus largement, puisqu'on pourrait essayer de s'inspirer de bons exemples,
Tout à fait. Au Royaume-Uni, il est fait. Il n'y a pas forcément besoin d'obligation vaccinale dans certains pays. Il y a 5 ou 6 pays où il est fait systématiquement.
Mais en France, la vaccination, c'est compliqué.
Mais en France, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Donc, il y a des pays où il suffit de recommander et c'est fait. Là,
Alors, néanmoins, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas dans le calendrier vaccinal. Vous nous avez expliqué pour quelles raisons. Néanmoins, vous, les médecins, les pédiatres, les généralistes, vous le conseillez, ce vaccin. Alors, il faut le payer pour le coup.
Oui, alors, il est remboursé et il est recommandé pour les gens qui ont des déficits immunitaires, des déficits du complément, les gens qui n'ont plus de rate ou les gens qui sont greffés.
Bon, ça ne fait pas beaucoup de gens.
Alors,
quand
ça ne fait pas beaucoup de gens, mais enfin,
Enfants, il va me coûter combien ?
Tout à fait, à peu près 80€ la dose. Et puis après, il faut peut-être regarder avec les mutuelles. Mais effectivement, il n'y a pas de. Moi, je le présente comme les autres vaccins en expliquant qu'effectivement, il ne fait pas partie de recommandations systématiques, mais ce vaccin existe. Et je pense que c'est le rôle du médecin d'expliquer existent. Alors, il faut faire deux doses initiales et puis une dose de rappel dans la deuxième année de vie.
Et si jamais on a des auditeurs qui nous écoutent, pour lesquels ils n'étaient pas du tout au courant de ce vaccin, s'ils veulent faire vacciner leur enfant, un enfant qui a, je sais pas, 5 ans, 6 ans, est-ce qu'il peut amener ce qu'ils peuvent aller chez le médecin traitant pour se vacciner ?
Ah oui, tout à fait.
On peut rattraper, même si on ne l'a pas fait dans la deuxième année de vie, comme vous dites.
Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème.
D'accord. Et adulte, même, ça a un intérêt ? Parce que vous disiez à la fac, dans les jeunes adultes, il y a des méningites, est-ce que ça vaut le coup pour eux ?
Tout à fait. Et même peut-être, la cible privilégiée, c'est les tout-petits, et puis après, les adolescents. Donc les adolescents, il faut y penser.
Jimmy ?
Il y a d'autres souches de type de méningite. On a parlé du coup de la C, de la B, et il y a aussi une chaîne AWX. Est-ce que là aussi, il y a des vaccins qu'on peut proposer ?
Oui, là, dans les méningocoques, il y a aussi il y a les A, il y a A, B, C, X, Y, W.
Oh là là, ça donne tout l'alphabet
Il y en a 6. Okay. Mais effectivement, il y a un vaccin qui est A, C, Y, W.
Donc c'est un vaccin 4.
Il n'y a pas le B dedans et il n'y a pas
ça
X.
Ça se fait,
mais
ce vaccin en France ?
Et c'est un vaccin qu'on fait quand on voyage. C'est un vaccin qu'on propose également aux gens qui sont vulnérables.
Parce qu'en France, ça ne circule pas trop,
ces
souches-là.
Et on a beaucoup moins le A très peu. Le W et le Y, on a l'impression que ça monte un petit peu. Le W notamment, un tout petit peu. Rien à voir avec le B, mais effectivement, il y en a un petit peu. Donc,
Je reviens sur les vaccins donc, plus courants et le B qui est obligatoire, et le C qui est obligatoire. Et le B qui donc, existe, mais qui pour l'instant n'est pas dans le calendrier vaccinal. Il protège bien ? Il protège combien de temps pour la vie ? Enfin, je veux dire, une fois qu'on a vacciné son enfant, il est couvert pour toujours ?
Alors, en médecine, il n'y a rien de pour toujours. C'est ça qui est un peu triste, mais de temps en temps, il y a quand même des schémas vaccinaux qui sont différents selon les vaccins, selon les âges, selon l'âge de la première dose. Donc, il faut regarder ça. Et puis, ça varie. On a aussi des études avec des cohortes de patients où on suit un petit peu leur taux d'anticorps et voir un peu comment ils répondent et comment ils répondent à long terme. Donc il y a peut-être des rappels à faire de temps en temps. Pour l'instant, notamment sur le B par exemple, pour l'instant il n'y a pas de prévision de rappel, mais ça viendra peut-être.
On l'a dit un petit peu, la France est un pays où on a une grande défiance vis-à-vis de la vaccination, peut-être des problèmes d'enfants gâtés, d'enfants un peu riches. même si on a tous des situations parfois différentes. Mais est-ce que c'est un vaccin qui est bien toléré? Parce que c'est souvent l'angoisse des parents. Est-ce que mon enfant va supporter cette vaccination?
Alors, l'expérience, et puis c'est marqué dans les recommandations de ce vaccin, c'est que de temps en temps, le vaccin anti-méningocoque B peut faire un peu de fièvre et peut être un peu douloureux, surtout quand il est fait en même temps qu'un autre vaccin, un peu moins quand on le fait tout seul. Donc l'idée, c'est de me donner du paracétamol avant l'injection et puis quelques heures après l'injection en rentrant à la maison.
Est-ce qu'on a espoir de faire disparaître un jour, en tout cas la majorité des méningites, grâce à une meilleure couverture vaccinale, notamment avec ce vaccin-là qui n'est pas encore dans le calendrier vaccinal, donc j'imagine qu'il n'est pas beaucoup réalisé?
Malheureusement, disparaître, j'y crois pas trop, j'espère, mais j'y crois pas trop. Par contre, les réduire, c'est sûr qu'on peut, c'est sûr qu'on a une arme qui est fabuleuse, qui sont les vaccins. Donc il faut y croire et puis il faut l'utiliser, il faut vraiment y croire à fond. Ils sont faits pour ça et ils marchent très très bien et on le voit bien, ils ont fait chuter terriblement les quantités de méningite AC par exemple.
Et paradoxalement, c'est une maladie qui fait très peur, la méningite, mais dont on parle pas si souvent et qui est plutôt méconnue du grand public. Alors on aurait plutôt intérêt à s'intéresser à cette pathologie qui peut tous nous toucher un jour ou l'autre.
Bah, tout à fait, je pense que c'est d'ailleurs une bonne idée, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui parce que je pense que c'est une bonne idée d'en parler et c'est une bonne idée que tout le monde soit au courant des signes pour aller vite.
Parce qu'on a tous un cas dans l'histoire, une famille, un oncle, un cousin qui a eu, il y a eu cette histoire d'enfant qui est mort dans ma famille, d'une méningite, mais en même temps on ne sait pas vraiment ce que c'est cette maladie tant qu'on ne l'a pas vécu de près.
Oui, et puis on a aussi les cas où on ne sait pas que c'était une méningite, mais c'est cette personne qui est devenue sourde à 3 ans, brutalement, on ne sait pas pourquoi, ou cette personne qui a des troubles de désapprentissage, on ne sait pas pourquoi. Oui, il y a eu une espèce de fièvre quand il était petit et puis en fait probablement que c'était une méningite. Moi j'en ai quelques-uns dans ma patientèle où effectivement on sait maintenant en recherchant que c'était des méningites, donc c'est dommage.
Pourquoi en France il y a une disparité? Pourquoi il y a certains départements ou régions qui sont peut-être plus concernés par des épidémies comme ça de temps en temps de méningite à méningocoque?
Parce qu'il y a les bactéries ne sont pas toutes les mêmes et de temps en temps il y a des bactéries, même dans les baies, on disait tout à l'heure il y a 6 sérogroupes, et bien dans les baies il y a encore des sous-groupes et il y en a qui sont plus virulentes que d'autres et donc il suffit qu'il y ait un cas importé d'un cas qui vient, un porteur sain même qui vient, et puis il fait une espèce de cluster dans une boîte de nuit, une université, et puis on a...
Ça va mieux les méningites là depuis qu'il y a le coronavirus?
Il y a moins de boîtes de nuit, effectivement.
Il peut y avoir des effets positifs, je veux dire.
Il y a moins de boîtes de nuit, les universités sont un peu fermées, alors c'est pas que les médecins sont contre les boîtes de nuit, mais effectivement, là, on a probablement un peu moins de...
Et les gestes barrières qu'on met en place en ce moment vont nous aider sûrement aussi un petit peu.
Les gestes barrières, les médecins adorent ça, parce que on a rien inventé de mieux que le lavage de main déjà, de toute façon.
Merci beaucoup, docteur Ménard, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir éclairé sur ces infections qu'on connaît tous de nom. On dit méningite, tout le monde tremble, mais au moins, grâce à vous, on les connaît mieux, ainsi que les moyens de les prévenir. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner encore cet après-midi. Alors, il est temps de passer à notre séquence Les maux du quotidien. Aujourd'hui, on va vous parler de la sclérite. C'est un mal très peu connu. Connaissez-vous donc, vous, cette inflammation assez sévère de l'œil? Avez-vous une idée des causes et des traitements de ce problème qui peut engendrer des soucis de vision? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute son micro-trottoir.
C'est vrai que le nom fait un peu peur.
Sclérose en plaques. J'ai pas un problème de dos.
C'est aigu, hein, parce que it, c'est tout ce qui est aigu.
Alors sclérite, je sais pas s'il faut faire le rapprochement avec la sclérose en plaques. Je pense que c'est quelque chose qui a un lien avec les os.
Bah, ça doit être un peu comme une conjonctivite, peut-être.
Bah, je pense que si ça touche les yeux, oui, c'est douloureux. Ça doit toucher tout le haut du crâne, en plus.
La cause d'une sclérite, ça peut être les pollens, ça peut être dû à la pollution, éventuellement.
Ça peut altérer la vue, peut-être jusqu'à devenir aveugle.
Bah, devenir aveugle, je pense pas, mais ça peut peut-être entraîner des lésions au niveau des yeux.
Sclérite, le it, en fait, à la fin du mot, je pense que c'est quelque chose qui peut être soigné, qui doit peut-être faire un peu mal, mais moins que, par exemple, une sclérose en plaques qui est plus douloureuse.
Traitement, bah, un petit peu des petites gouttelettes dans les yeux.
Alors Jimmy, là, clairement, on a besoin de vos lumières, hein, de votre savoir tentaculaire.
Ah, c'est bien ça, savoir tentaculaire, ça me définit assez bien.
Parfois, je suis gentille avec vous quand même.
Parfois sarcastique, mais là, vous êtes très juste.
Ouais,
vous
visez juste. Voilà, je sais pas, j'ai envie d'être comme ça aujourd'hui.
Je pense que c'est le Covid, ça vous a rendu...
C'est un effet secondaire sûrement. Alors, une sclérite, Jimmy, c'est quoi?
Alors, la sclérite, c'est une inflammation qui est sévère et qui va détruire la sclère. La sclère, c'est une couche blanche, fibreuse, et qui est résistante, qui recouvre l'œil. Ça survient plutôt chez les femmes qui ont entre 30 et 50 ans, et l'atteinte est bilatérale. Bilatérale, Mélanie, ça veut dire...
Dans les deux yeux.
Qui touche les deux yeux, dans un tiers des cas. Et ça touche les personnes qui ont souvent des maladies inflammatoires, des maladies immunologiques comme une polyarthrite rhumatoïde, un lupus. Et dans la moitié des cas, on ne sait pas pourquoi ces gens développent cette pathologie.
Alors, c'est quoi les symptômes de la sclérite? Donc, c'est au niveau de l'œil, on a compris, mais qu'est-ce qui se passe?
Ça fait mal. L'œil est douloureux, une douleur assez profonde qui est constante, sévère, qui empêche le sommeil. C'est pas simplement
ça fait très mal.
Comme si vous aviez une petite conjonctivite. Vous avez une sensibilité oculaire, notamment à la lumière, vous êtes gêné. L'œil se met à pleurer, vous avez un larmoiement important. Et puis, vous avez un peu d'inflammation au niveau de l'œil qui peut devenir un peu violacé. Donc, c'est quelque chose qui amène souvent une consultation rapide.
Alors, je crois que aussi, alors on va essayer de ne pas affoler tout le monde, mais ça peut être encore plus grave que ce que vous venez de décrire, malheureusement.
La sclérite peut évoluer vers une forme encore plus sévère qu'on appelle la sclérite nécrosante, qui peut entraîner la perforation de l'œil et du globe oculaire. Et donc, à ce moment-là, vous perdez la vue.
Bon, on n'est pas dans les choses très joyeuses
aujourd'hui.
Demain, on va essayer de faire plus funky, parce que là, c'est pas possible. Alors, Jimmy, là, vous nous avez fait un petit peu peur quand même, cette histoire de globe oculaire qui tombe ou qui se nécrose, qui se perfore, super. Comment on diagnostique ça? Parce que vraiment, là, on a envie de savoir, du coup.
Alors là, du coup, c'est vraiment l'ophtalmo, qui doit porter l'examen. Alors, dans un premier temps, il va vous examiner à l'œil avec ce qu'on appelle une lampe à fente.
Ah oui.
Et ensuite, il a besoin d'examens complémentaires pour observer l'arrière de l'œil. Et donc, dans ces cas-là, ils peuvent vous faire un scanner de l'œil ou une échographie pour faire le diagnostic de sclérite. Donc, il y a besoin d'examen et c'est le spécialiste qui pose le diagnostic.
Et donc, malheureusement, il peut y avoir aussi une perte de la vision, je crois.
C'est ce qui est dramatique, c'est que 14% des personnes qui ont une sclérite présentent une baisse de la vision dans l'année et 30% une baisse significative dans les 3 ans. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux puisque derrière, il y a de vraies conséquences, même lorsqu'elle est traitée.
Alors justement, les traitements, Jimmy, dites-nous plus.
Le traitement, c'est les traitements anti-inflammatoires qu'on donne dans l'immense majorité des cas. Mm-hmm. Ça peut s'accompagner d'un traitement, donc d'abord c'est des gouttes, et parfois, comme c'est associé à des maladies inflammatoires comme la polyarthrite, le lupus, on va donner aussi des comprimés, donc des anti-inflammatoires généraux comme de la cortisone, et parfois on a recours à des immunosuppresseurs. Donc c'est un traitement qui est parfois lourd, mais nécessaire, et souvent on prend le malade en charge dans sa globalité et pas que son œil, vu que je vous ai dit que ça s'accompagnait dans la moitié des cas d'une maladie immunologique.
Très bien Jimmy, on a compris un problème très sérieux. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, comme tous les jours, c'est sur Europe 1 et vous êtes avec nous depuis 15h. Pour cette dernière séquence de l'émission, on accueille tout de suite Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Et Catherine, aujourd'hui, on a une question d'Augustin, on va l'écouter tout de suite.
Bonjour Mélanie, bonjour Catherine. Donc je suis marié, j'ai plusieurs fantasmes, mais je me pose vraiment la question de savoir s'il faut les réaliser, donc avec ou sans madame, ou bien faut-il que je les garde tout simplement dans ma tête sans vouloir les réaliser, quoi. Merci pour votre réponse.
Jimmy, alors avant de donner la parole à Catherine, je vous vois totalement outré. On a dit Jimmy qu'il n'y avait aucune question taboue dans cette émission.
Justin, c'est un petit coquin quand même. Il pose la question, est-ce que je fais mes fantasmes ou je les fais mais sans ma femme? C'est même pas... La question, c'est est-ce que je le fais avec ma femme?
J'ai vu votre tête, j'ai tellement rigolé.
Et dodoline.
Non mais franchement, c'est...
Augustin, petit coquin.
Il a raison Augustin, il a raison.
Il pose ses questions.
Il a raison, mais est-ce que du coup... Là, parce que je suis scotché par ça. Faire ses fantasmes.
Il vous demande l'autorisation de faire une grosse bêtise, Catherine.
Mais ça, normalement, si on veut faire un fantasme, normalement, c'est avec son partenaire. Pourquoi aller chercher avec un autre partenaire
c'est
un fantasme?
C'est un homme trop bien, Jimmy. Attendez, je crois que.
Alors, d'abord, la notion.
N'est pas comme vous.
Déjà, la notion de fantasme, dans les fantasmes, il peut y avoir les fantasmes sans justement le partenaire, par définition. Être un autre ou une autre peut être justement l'expression d'un fantasme. Donc, c'est une question qui est allée à la fois assez classique. C'est. On a tous animé de fantasmes, même si nous en rendons pas compte, parce que c'est une histoire tout à fait inconsciente qui arrive plus ou moins fortement au niveau de notre conscient, pardon. Mais pour autant, ça nous traverse l'esprit, ça participe de notre excitation, et puis ça passe, et puis on vit notre sexualité portée par ces images ou ces scénarios que nous nous sommes construits très naturellement. Ça, c'est pour tout un chacun. Et certains, évidemment, ont envie d'explorer tout le champ de leur possible, tout leur pouvoir sexuel, leur virilité, pour revenir sur Augustin, qui voudrait pouvoir essayer tout, d'après ce qu'il dit.
Tout le monde vraiment a des fantasmes. Augustin en parle librement, et c'est tant mieux pour lui, c'est heureux, il n'y a pas de tabou, mais on a vraiment tous des fantasmes, même sans le savoir.
Oui, mais en fait, le problème, c'est que nous entendons dans la rue la notion de fantasme comme un scénario bien ficelé. Dans la réalité,
pas toujours.
Nos fantasmes, ce qu'on appelle fantasmes en psychanalyse, ce sont nos constructions psychiques qui racontent des relations de pouvoir,
C'est quoi, par exemple, un fantasme qu'on n'imaginerait pas comme ça, qu'on a peut-être en soi sans le savoir réellement?
En fait, il y a une envie, fondamentalement dans la sexualité, c'est l'envie de fusionner avec l'autre, de ne faire qu'un pour de vrai. Hein, comme quand on est dans un ventre maternel, autant vous dire qu'on est loin de la sexualité, dans ce que je suis en train de dire. Il y a l'idée d'absorber l'autre, de manger l'autre, de dominer l'autre.
Jimmy fait des gros yeux encore, donc, manger vous... l'autre, non, non.
Non, non, mais...
Top chef ou...
Voilà, non, mais tout ce que je veux dire, c'est que là, c'est totalement inconscient. Et après, ça prend des tournures d'application symbolique sur nos relationnels les uns avec les autres. Donc l'idée, par exemple, puisque Augustin, je le vois venir un peu avec ses gros sabots, de le faire avec d'autres femmes et plusieurs le cas échéant, et c'est pour ça que sa compagne, tout d'un coup, si elle ne voulait pas participer de son fantasme, ça pourrait être envisagé ailleurs. En fait, ça, c'est un truc assez classique, c'est de pouvoir être le centre du monde de l'autre. Encore une fois, c'est un fantasme dans nos constructions psychiques, d'être le cœur de la préoccupation et d'avoir une jouissance que chacun va pouvoir mettre en évidence et faire grandir, en quelque
Catherine,
sorte.
On aime bien les choses pragmatiques et les
oui,
conseils.
Oui, je sais. Alors,
si son quelque fantasme, chose de c'est là. La voisine, on est d'accord qu'il ne faut pas qu'il aille au bout de
voilà,
son fantasme.
Voilà, au moins c'est imagé, on comprend là, voilà. Jimmy, c'est bien.
Et si jamais son fantasme, c'est d'avoir un rapport sexuel dans un lieu insolite.
Avec la voisine.
Non, mais
ou quelqu'un d'autre.
Non, mais ça, c'est acceptable. Donc, il y a peut-être certains fantasmes qu'on peut réaliser et d'autres qu'on devrait garder dans la tête pour peut-être l'équilibre.
Pour l'équilibre de la vie en société. Parce qu'on pourrait dire exactement la même chose. Mon fantasme est peut-être de tuer quelqu'un qui m'énerve au plus haut point.
C'est moins sympa.
Mais c'est pas parce que j'ai envie de le tuer et que je pense vraiment que je vais le réduire en bouillie tellement qu'il m'énerve, c'est pas pour autant que je passe à l'acte en effet. Parce que j'ai un surmoi qui pose la limite de l'acceptable ou pas, qui me permet de continuer à vivre en relation avec les autres, là en l'occurrence pour Augustin, avec son épouse. Donc en fait, c'est cela la limite. C'est qu'il y a des choses, je peux aller voir mon voisin et lui dire que vraiment j'en ai marre qu'il fasse du bruit. Et là, je me suis fait plaisir parce que je me suis offert la liberté de raconter la limite qui n'a pas lieu d'être franchie par lui, je ne suis pas obligée d'aller le tuer. Eh bien, c'est la même chose dans la sexualité. Il y a des choses que l'on peut partager avec son partenaire parce qu'on sait qu'on va pouvoir ouvrir le champ d'être accepté dans sa créativité érotique. Pour autant, ce que l'on propose n'est pas quelque chose qui est borderline et qui met en péril le relationnel à l'autre et la vie en société.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous les attendez avec impatience et nous aussi, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, vous savez, tous les jours, on réunit trois personnages qui, a priori, n'avaient rien à faire ensemble. Aujourd'hui, ils ont un point commun.
Oui, ce sont les influenceurs de l'histoire.
Oui.
Ils ont leur pensée porte encore. Ils ont beaucoup de followers. Jésus-Christ.
Ah, pas mal, ouais. Oui.
Montaigne.
Pas mal
évidemment.
Aussi.
Ah, oui. Et vous avez choisi qui?
Quelqu'un qui a beaucoup plus de followers sur Instagram que Jésus-Christ et Montaigne, c'est Nabila, Stéphane, quand même. Essayez d'être un peu moderne.
Oui. Je sais pas si elle va changer la pensée contemporaine.
Souhaitons-le, ou pas.
Merci messieurs, je vous souhaite une bonne émission. On va vous écouter, bien sûr, et vous aussi, restez sur Europe 1.